Seigneur est saint. Notre Dieu est saint. Et on va voir aujourd'hui que... Ah, on n'entend pas assez. On va voir aujourd'hui que c'est parfois particulier de faire face à un Dieu qui est saint, quand nous ne le sommes pas. Alors... On va redescendre sur Terre, on va aller chez Ikea. Vous connaissez tous Ikea ? Vous êtes tous déjà allés chez Ikea ? Qui n'est jamais allé chez Ikea ? Qu'il se dénonce. Ah, il y a quand même des gens qui ne sont jamais allés chez Ikea. Très bien. Eh bien, tu vas apprendre des choses sur Ikea. Vous allez apprendre des choses sur Ikea. Pas grand-chose, parce que ce n'est pas le thème non plus, mais enfin... Il fut une époque assez lointaine... Ou quand vous vous rendiez dans un magasin pour acheter, mettons, une cuillère en bois, par exemple, vous rentriez dans le magasin, vous trouviez votre cuillère en bois, vous achetiez votre cuillère en bois, le vendeur vous la vendait, votre cuillère en bois, puis vous repartiez avec. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit, c'est quand même ballot, ce type qui veut une cuillère en bois et à qui on vend une cuillère en bois. C'est dommage. Si on s'y prend bien, on doit pouvoir lui vendre la gamelle avec. Et peut-être même qu'avec la gamelle, on pourrait y mettre un bouquin de recettes, et comme ça, il achètera les ingrédients de la recette. Alors ce quelqu'un, c'est Mammon, c'est le démon de l'argent dans la Bible. Et c'est comme ça que pour trouver votre cuillère en bois chez Ikea, bah vous devez d'abord traverser la zone des salles de bain, de l'aménagement de la cuisine, de la chambre, du salon, et c'est super bien présenté, c'est très bien mis en valeur, et d'ailleurs il me manque une poubelle, et puis cette plante, tu l'as vue cette plante, elle est bien, elle ferait bien dans le salon. Voilà, donc vous m'avez compris, on repart rarement avec ce qu'on avait sur notre liste quand on va chez Ikea, mais on peut parler en fait de n'importe quel autre grand magasin, n'importe quelle grande surface, par exemple, est-ce que vous savez pourquoi le lait dans une grande surface se trouve à un angle et le pain à l'autre bout du magasin ? Vous aviez jamais remarqué ça ? Si, hein ? Bon, c'est classique, c'est connu, hein ? C'est parce qu'on a besoin en général des deux choses et donc on est obligé de traverser, là aussi, il faut passer par les confiseries avec les enfants, tout ça, pour aller du lait jusqu'au pain. Ce sont deux produits de nécessité, et donc on nous fait traverser tous les rayons. C'est fort quand même. Et tout est comme ça, en fait, tout est comme ça, tout est très bien pensé dans les magasins. Le packaging est pensé, la disposition est pensée, ce qui est en tête de gondole, c'est pas par hasard, ce qui est à hauteur de vos yeux, c'est pas par hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout doit être parfait dans ce monde pour satisfaire Mammon. Mais nous, nous avons un Dieu, et on a un Dieu qui nous dit, lui, soyez parfait comme votre Père est parfait. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Alors, on est à la troisième semaine du parcours Bâtir sur du solide, et ce matin, on va commencer à aborder ce que Louis Schweitzer, donc, qui a élaboré ce parcours, a appelé les sept piliers de la vie. Les sept piliers de la vie. Et on va voir les trois premiers. On les trouve en Matthieu 5, versets 21 à 37. Je vous invite à me suivre en Matthieu 5, versets 21 à 37. Je vais prier et puis je vais lire. Seigneur, à nouveau, nous sommes pleins de reconnaissance pour ta parole. Nous savons que nous en avons besoin, nous savons qu'elle nous nourrit. Nous savons aussi à quel point nous pouvons souvent être bouchés à sa lecture, à quel point nous pouvons être superficiels dans notre manière de l'aborder. Et nous reconnaissons surtout, Seigneur, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour la comprendre de façon spirituelle, Seigneur, pour que ce ne soit pas notre chair, notre propre entendement qui saisisse ce que tu dis là, ou en tout cas pas seulement, mais que ce soit aussi notre esprit, pour que tu fasses ton œuvre en chacun d'entre nous. Nous nous attendons à toi ce matin. Amen. Alors Matthieu 5, 21 à 37. C'est Jésus qui parle et il dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Alors Jésus ici oppose sa parole à ce que nous avons entendu et appris. Ce que nous avons entendu et appris en matière de pardon et de réconciliation, en matière de lutte contre la tentation, en matière de parler vrai, c'est-à-dire de parole, je dirais, pleine, en opposition à la parole vaine. Et ce que Jésus enseigne ici, finalement, il le résume plutôt bien, je trouve, un petit peu plus loin, en Matthieu 5, verset 48, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Dieu n'est pas intéressé à ce que nous évitions le pire, finalement, il s'intéresse à ce que nous vivions le meilleur. Cependant, le constat est assez affligeant, on est complaisant à notre égard, on s'arrête à mi-chemin plus souvent qu'il ne faut. On s'appuie sur ce que nous avons entendu et appris, sauf que Jésus, lui, arrive et nous dit « Vous avez entendu que, vous avez appris que, mais moi, je vous dis. » Et donc, il va falloir aller un pas plus loin. Et quel pas, puisqu'il s'agit de rien de moins que la perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça, c'est la ligne de mire. Alors, s'il y a bien un moment initial dans notre salut, un moment où Dieu vient nous chercher et nous sauver, il y a aussi ce qu'on appelle la sanctification, le fait d'aller de progrès en progrès. On ne peut pas s'endormir sur notre salut. On doit apprendre à vivre en accord avec notre salut. Et ce salut, Jésus nous le présente comme un chemin étroit. Et il nous présente la perdition comme un chemin large. C'est-à-dire qu'il y a un chemin finalement difficile et puis un chemin facile. L'un nous mène à la vie éternelle, l'autre nous mène à la perdition. Et chaque décision importante de notre vie, tout au long de notre vie, nous laisse à choisir entre le chemin étroit et le chemin large. Alors, beaucoup prennent le chemin large parce qu'à courte vue, c'est le plus simple, c'est le plus facile, c'est le moins contraignant, le moins engageant. Et donc, imaginons, puisque c'est ce que nous propose Jésus, que nous soyons blessés et en colère contre un frère ou une sœur de l'Église. On nourrit de l'amertume vis-à-vis de cette personne. Alors évidemment, en bon chrétien, on ne va pas aller lui crever les pneus, on sait se tenir à peu près, mais on l'évite, parce que ça vaut mieux pour tout le monde. D'ailleurs, si j'ouvre la bouche, ça risque de mal tourner. Alors c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, on ne s'arrête pas toujours à ça, donc c'est déjà bien si on s'arrête à ça. Mais on est encore sur le chemin large. Parce que ici, Jésus pointe notre colère et nous dit à nous, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et il nous dit que plus on monte en grade dans cette colère, plus le tribunal est sérieux et plus la sanction est lourde. Pour Raca, c'est le Sanhédrin. Alors on ne sait pas trop ce que voulait dire Raca, mais a priori, ça n'avait pas l'air super sympathique. Quant au Sanhédrin, c'est le tribunal qui a condamné Jésus à mort. Pour insensé, il n'y a plus de juge ni de Sanhédrin, c'est directement le feu de la Géhenne, c'est-à-dire l'enfer. C'est quand même super cher payé, non ? C'est d'autant plus cher payé que c'est nous, la personne lésée dans l'affaire. Non ? On est en colère. Si on est en colère, c'est bien parce qu'on nous a fait du mal à nous. Et c'est quand même nous que Jésus pointe du doigt. Je trouve que c'est assez fort de café. Et ce n'est pas fini, puisqu'au verset 23, Jésus affirme que c'est notre frère qui a quelque chose contre nous. C'est-à-dire qu'il nous fait du mal, on est en colère, et c'est lui qui a quelque chose contre nous. Qu'est-ce qu'il peut avoir contre nous ? Il y a sans doute plusieurs manières de comprendre ça. Ce que je comprends en tout cas par cette expression, c'est pas tant qu'il aurait quelque chose à nous reprocher, bien que peut-être, parce que nous évitons son regard, parce que nous ne voulons pas le saluer, parce que, voilà, il sent bien qu'il y a quelque chose, quoi. Mais ce que je comprends surtout, c'est qu'il a, lui, du fait de notre colère à nous, quelque chose qui nous tient captif. On lui a remis les clés d'une partie de notre vie. Il a quelque chose contre nous. Quelque chose, finalement, qui nous fait du mal à nous. Tant que nous sommes en colère contre lui, il nous tient. On se laisse tenir par lui. Et alors, nous dit Jésus, il y a plus urgent pour nous que d'aller présenter notre offrande à Dieu. Ce n'est pas que c'est mal de présenter son offrande à Dieu, mais il y a plus urgent. Il y a d'aller nous débarrasser de ce truc-là qui est en train de nous mener dans la géhenne, qui est en train de nous faire vivre un enfer, qui est en train de nous retourner l'estomac tout le temps. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais c'est pas à moi d'y aller. Certainement pas. C'est pas à moi, c'est lui le fautif, c'est lui le coupable. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons entendu, ce qu'on a appris. Vous avez entendu que si l'autre vous a mis en colère, c'est à lui de venir s'excuser. Mais moi, je vous dis, c'est à vous de faire le premier pas. Alors, je dis qu'il y a peut-être deux manières d'entendre ça, parce qu'il y a, je dirais, les conflits normaux et courants de la vie de tous les jours. Et là, je crois que cette parole s'applique tout à fait littéralement. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est à nous d'aller voir ce quelqu'un et de nous réconcilier, de chercher la réconciliation. Mais parlons peu, parlons bien. Est-ce qu'on est en train de dire aussi que, par exemple, une victime de violence sexuelle devrait aller se réconcilier avec son bourreau? Et là, en vrai, personne ne peut exiger ça de quelqu'un d'autre. Dieu peut faire son œuvre en nous et nous amener à ce genre de choses, mais personne ne peut exiger ça de quelqu'un d'autre, évidemment. Néanmoins, si tu ne veux pas payer jusqu'au dernier cadran cette colère qui est en toi, c'est dans ton intérêt à toi de traiter le problème de la colère, de trouver en Dieu la sortie. Et il n'y a pas de solution toute faite à ça. Ça ne sera pas facile, ça sera probablement long, ça sera peut-être douloureux. En gros, ça sera le chemin étroit. Ça sera le chemin étroit qui mène au salut aussi dans cette situation-là. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est quand même pas du gâteau pour les petits humains que nous sommes. Au verset 27, on retrouve encore une fois ce « vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Et peut-être qu'il faut dire à un moment donné quand même que le problème, ce n'est pas la loi de Moïse. Jésus ne remet pas en cause ici la loi de Moïse. Le problème vient plutôt de ce que les maîtres de la loi, les pharisiens, on en dit ensuite de cette loi. Jésus ne contredit pas la loi, il en donne au contraire le sens profond. Et là, sur la question de l'adultère, Jésus nous dit qu'il ne suffit pas de sauver les apparences. Ce qui importe, ce n'est pas seulement nos actes, c'est aussi et surtout notre cœur. Nous n'avons pas tué. Bien. Je ne sais pas si on peut se mettre une médaille de n'avoir pas tué. Nous n'avons pas tué, mais en pensée, on a tué 1000 fois. Nous n'avons pas trompé notre conjoint. Bien. Mais ça fait peut-être bien longtemps que notre cœur ne lui appartient plus. Ça fait peut-être bien longtemps qu'il s'évade, depuis des mois peut-être, vers la voisine, vers la boulangère, ou vers le voisin ou le boulanger, comme vous voulez. Que valent les apparences? Et surtout, qu'est-ce qu'elles valent devant Dieu? Devant les hommes, ça peut passer. En tout cas, on peut donner le change pendant un temps. Ça durera toutefois jamais toute la vie, parce que vous connaissez le proverbe peut-être, hein, mais quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle finit toujours par arriver, à un moment ou à un autre. Mais surtout, qu'est-ce que ça vaut devant Dieu? Qu'est-ce que ça vaut devant Dieu? Devant Dieu, les apparences, évidemment, ne valent rien. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Il connaît notre cœur. Alors, j'aime bien cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Je peux résister à tout, vous la connaissez? Sauf à la tentation. » Je peux résister à tout, sauf à la tentation. Notre rapport à la tentation ressemble un peu à ça, parfois, il me semble. Mais encore une fois, Jésus nous invite à aller plus loin que la médiocrité de notre cœur. Et non seulement ce n'est pas suffisant de crisper ces petits points-là en disant « je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber », mais c'est surtout pathétique, en fait, d'en rester à ça. Jésus nous invite, lui, à entrer dans une lutte sévère contre la tentation. Et cette lutte, ce n'est même pas une lutte défensive, c'est une lutte offensive. Il nous dit « si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Ce n'est pas une petite bataille. On peut visiblement sortir de là blessé, estropié. Eh bien, ça vaut mieux que d'être jeté en entier dans la géhenne. L'opération peut être douloureuse, mais elle vaut la peine. Alors évidemment, il s'agit d'une image, mais c'est quand même une image qui a le mérite d'être claire, je trouve. Elle nous dépeint une lutte contre le péché qui est radicale, sans demi-mesure, et qui est aussi à notre initiative. C'est une lutte offensive. Parce que, en général, quand on en vient à devoir se défendre contre le péché, c'est qu'on lui a déjà laissé vachement de place, en fait. On l'a laissé déborder beaucoup sur le terrain de notre vie. Mais toi, dit Jésus, sois parfait comme ton Père est parfait. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Parce que c'est une invitation à être pleinement conséquent avec notre parole. Si le fait de faire un serment, de jurer sur la tête de je ne sais qui, ou en posant une main sur son cœur et l'autre sur la Bible, rendait notre parole plus fiable, je crois que ça se saurait. Il me semble qu'on a eu quelques contre-exemples dans l'histoire du monde. En général, quand quelqu'un se sent obligé au moment de te demander un prêt d'argent d'ajouter « Non, mais t'inquiète, hein, je te le rendrai, promis !» Ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon pour tes sous. À mon avis, mieux vaut considérer que tu ne reverras pas tes billets. C'est plus sûr, je crois. Ce que nous demande Jésus, ce n'est pas de promettre, c'est d'avoir une parole digne de confiance. Si nous disons oui, que ce soit oui, que ce soit un oui sur lequel les autres peuvent compter. Et sinon, eh bien, disons non. Notre parole ne doit pas être si faible et si fragile qu'elle ne se suffirait pas à elle-même, qu'on aurait besoin d'y ajouter quelque chose pour essayer de l'attester un peu plus. En fait, notre parole se suffit à elle-même. Notre parole est solide. En tout cas, elle devrait être solide. Tout ce qu'on y ajoute, donc, l'affaiblit. Tout ce qu'on y ajoute, dit Jésus, vient du malin. La confiance, ça ne se gagne pas avec un serment, ça se gagne en étant conséquent avec ce qu'on dit. Matthieu 12, versets 34 à 36, dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Alors, travaillons au bon trésor de notre cœur, parce que si notre trésor est bon, nous n'aurons aucun besoin d'ajouter quoi que ce soit aux paroles qui en sortent. Sois parfait comme ton Père est parfait. La barre est haute, hein ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que la barre est haute. Mais elle nous parle du projet de vie que Dieu a pour nous. C'est une vie d'homme et de femme réconciliée avec Dieu, réconciliée avec soi-même, réconciliée avec ses frères et sœurs. C'est une vie de lutteur, de combattant, non pas défensif, mais offensif contre le péché. Et c'est une vie intègre qui tire de bonnes paroles, du bon trésor de son cœur, sans rien y ajouter. Le monde soumis à Mammon ne manque pas d'ingéniosité pour rendre gloire à son idole. Il n'épargne ni ses efforts, ni son talent, ni son énergie pour atteindre un objectif qui est pourtant misérable puisqu'il est périssable. L'argent, tôt ou tard, sera pourri, les pièces rouilleront et les billets seront rongés par les mites. Notre Dieu, lui, nous donne des objectifs qui ont une visée éternelle. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça, c'est un sacré programme de vie. C'est un sacré programme de vie. Il est probable que nous n'y arriverons pas ici-bas, et en tout cas certainement pas par nos propres forces, mais nous avons l'éternité et nous avons l'Esprit de Dieu qui travaille en nous et qui nous fait aller de progrès en progrès. Eh bien, confions-nous en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, merci parce qu'au fond, tu nous invites à une vie palpitante, à une vie où on ne se repose pas sur nos lauriers, à une vie où on ne se contente pas de notre médiocrité. Tu nous appelles à rien de moins qu'à la perfection et c'est vraiment vers ça que nous voulons tendre. Sans présomption, parce que nous savons que nous sommes pécheurs, nous savons que nous sommes faibles, nous savons que pour ça nous avons besoin de toi, Seigneur, et c'est bien vers toi que nous nous tournons, Seigneur. Nous te prions de faire ton œuvre en nous, Seigneur, et nous voulons aussi, nous lever et faire notre part en accordant foi à ta parole, c'est-à-dire en la mettant en pratique dans nos vies. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la force de le faire. Quand nous sondons le fin fond de notre cœur, c'est toi que nous trouvons, parce que tu vis en nous. Et c'est toi qui nous dis, qui nous montre ce que tu attends de nous. C'est toi qui nous dis quoi faire, comment agir, quoi dire. Seigneur, aide-nous à ne pas te refuser ce que tu nous demandes. Seigneur, nous voulons être honnêtes devant toi et à la fois admettre notre faiblesse, Seigneur, nos craintes, nos peurs, notre désir, peut-être comme Jonas, de nous échapper de ce à quoi tu nous appelles. Mais nous voulons surtout t'obéir, Seigneur. Nous voulons répondre à ton appel, faire ce que tu nous demandes, parce que nous savons qu'au bout du chemin, il y a la liberté, il y a le salut, il y a la paix, il y a la guérison. Seigneur, tu nous invites à entrer dans ta terre promise, Seigneur, et nous savons qu'elle est à la fois offerte et à conquérir. Seigneur, simplement aide-nous. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges, c'est ça qui doit revenir pour un chant.